Oui, Père, nous venons à toi, tous à toi, en Christ. Sanctifie-nous et purifie-nous par le sang précieux de l'agneau. Nous t'ouvrons nos cœurs et nous recherchons la communion avec toi. Apparais-nous. Parle au travers de ton esprit. Remplis la réunion de ta présence. Remplis-nous tous de ton esprit pour te chercher, te saisir ensemble dans ta parole. Aide-nous, Seigneur. Montre-nous ce que nous devons faire aujourd'hui. Comment nous devons nous préparer pour le jour où tu dois venir. Nous ne voulons pas juste avoir la connaissance. Nous voulons connaître ce qu'il y a sur ton cœur aujourd'hui. Nous te croyons, Seigneur. Nous plaçons notre confiance en toi. Merci, Père. C'est bien qu'on ait chanté ce chant. N'aimez point le monde. Beaucoup d'entre nous ne prenons pas cela très au sérieux parce que le monde est très attrayant. Et d'une certaine manière, nous avons aussi besoin de quelque chose de ce monde que Dieu nous a donné, qu'il a créé pour nous, afin que nous vivions sur cette terre. Et c'est beau. Regarde la Suisse. C'est merveilleux là où vous habitez. Cette magnifique vue là-bas sur ton balcon. Ça, on peut difficilement l'oublier. C'est beau parce que ça a été créé par Dieu. Mais d'un autre côté, il y a aussi un très grand danger parce que ce monde que le Seigneur a créé, bien qu'il est beau, aujourd'hui, il est sous l'emprise du prince de ce monde. Et et Satan a bien compris qu'il essayait de nous rendre captifs de ce système. Il a construit tout un système dans ce monde. Il a tout utilisé pour rendre notre cœur captif du monde, afin que petit à petit, nous soyons rendus captifs de ce monde et de ce système. C'est Satan qui a utilisé aussi notre convoitise, notre nature déchue. C'est un poison dans notre chair pour nous rendre captifs et aussi pour nous détruire. Si nous ne faisons pas attention, à la fin, nous ne remarquons même pas, bien que nous sommes croyants et que nous sommes chrétiens, que notre cœur n'est plus pour Dieu. Ça ne veut pas dire que nous sommes plus croyants. Jean ne parle pas là aux incroyants. Il s'adresse à nous, aux enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau de Dieu. C'est qu'il y a un danger que nous aimions le monde aujourd'hui. Et ensuite, l'amour du Père n'est plus en nous. Et ce qu'il y a dans ce chant, dans ce passage en fait de 1 Jean 2, versets 15 à 17, il nous montre que le monde passe. Le monde passe. Et tout ce qui est dans le monde, tout ce que tu as, aura, passe. Et à la fin, qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qu'il demeure si tu enlèves tout cela? Qu'est-ce qui va rester? Fais un bilan. Nous devons être intelligents aujourd'hui. Tout va passer. Va être détruit. Si cela arrive, qu'est-ce qui te reste encore?
Amen.
Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Elle va demeurer. Si aujourd'hui tu l'acceptes et tu la pratiques et tu vis selon cette parole, si tu en fais ton trésor, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tout ce que nous faisons avec lui, tout ce que nous gagnons de Christ, de son être céleste, cela demeure. N'est-ce pas, Timo? Le piano ne demeure pas. Mozart non plus. Beethoven non plus. Tchaïkovski non plus. Tous ces compositeurs ne vont pas demeurer. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu ne dois pas jouer de piano. Mais ça ne doit pas prendre, dominer, régner dans ton cœur. Que tu aimes tellement cette chose qu'à la fin, elle remplace le Père. Nous devons voir cela. Ça ne signifie pas qu'aujourd'hui, nous les hommes, même que nous devons vivre comme des moines, mais même les moines ne vivent pas ainsi aujourd'hui. Jean était un peu comme un grand-père pour les chrétiens, les croyants autrefois. Il a écrit ces versets par amour pour eux, et ça nous fait du bien d'accepter dans notre cœur ce que la parole nous dit. Et la parole que nous allons lire aujourd'hui a été prophétisée au temps d'Ésaïe. C'est-à-dire que ce concept et ce qui va venir, ce n'est pas seulement aujourd'hui, actuellement, mais déjà au temps d'Ésaïe, au temps de Zacharie, au temps des prophètes. Ils ont déjà prophétisé. Et cela n'était pas seulement valable autrefois pour eux, mais c'est aussi valable aussi bien plus pour nous aujourd'hui, mais pour eux aussi autrefois. Et pour nous, c'est encore plus actuel, parce que nous vivons aujourd'hui à la fin des temps. Le Seigneur revient bientôt. Autrefois, quand les apôtres ont vécu au temps des apôtres, il y a 2000 ans à peu près, ils ont déjà attendu la venue du Seigneur. Même le Seigneur lui-même a dit: il a fait un grand voyage qu'il vient un peu plus tard. Il n'a pas dit quand il reviendrait, mais qu'il fait un long voyage. Il a déjà donné cette signification. S'il avait dit aux disciples, quand il a dit aux disciples, il dit encore 2000 ans après je reviendrai. Alors personne n'attend plus du tout son retour. Si le Seigneur aujourd'hui nous apparaît, on se dit ah bon, ça dure encore 500 ans, ah bon c'est bon, on peut tous se rendormir. Alors tu peux continuer à exercer ton piano. Ah, nous pouvons tous faire ce que nous voulons, ce que nous apprécions faire aujourd'hui, parce que nous ne pensons même pas à son retour. Mais sais-tu ça, c'est une pensée tordue, trompeuse, parce que tu vas pas vivre 500 ans. Tu vis au mieux 80 ans, peut-être 5 mois, peut-être qu'il ne reste que 5 mois. Qui sait ce qui arrive demain? Et en plus, ton temps est court. Psaume 90. Il dit, apprends-moi à compter les jours, à compter mes jours. Comment est-ce que tu comptes tes jours? Ce que tu as compté gagner aujourd'hui dans ton travail, ce que tu as fait, combien tu as gagné d'argent. Et tu fais beaucoup de bilans. Mais personne ne fait les comptes de combien il a gagné de Christ. Et les hommes ont même rigolé, ont fait une plaisanterie. Ils ont dit, nous avons fait une application de toutes ces, avec toutes ces offrandes, des fêtes, afin que nous n'oublions pas. Beaucoup ont rigolé. Ah, ils ont même fait une application pour les offrandes. Je leur conseille, mais fais-le aussi afin que vous sachiez combien vous avez gagné de ce Christ merveilleux. Combien tu as expérimenté de lui. Et enfin, tu as tout oublié si tu fais pas une liste. Et le samedi, tu cherches, oh là là, qu'est-ce que j'apporte au père demain? Qu'est-ce que j'ai à lui apporter? Dans les choses du monde, tu sais exactement combien d'argent tu as sur ton compte. Il y a reçu. Ah, ou bien, est-ce que tu ne sais pas combien d'argent tu as sur ton compte? Peut-être que c'est pas beaucoup, c'est possible. Combien de Christ est-ce que tu as gagné cette semaine? Attends, un moment. Oui, un petit peu, mais quoi? Je tape un petit peu sur ma tête pour voir ce qui sort de ma mémoire. Les gens disent, regarde, même ils ont lu ce qu'ils ont expérimenté. C'est mieux que de dire n'importe quoi quand tu te lèves. À donner un témoignage. Et personne ne sait, ne comprend ce que tu veux dire. Et ce qui sort de ta bouche, je ne sais pas quoi. Ce que tu as écrit, ce que tu as offert au Père, ce n'est pas seulement ce que tu lis, mais ce qui est véritablement ton expérience. Tu sais très bien ce que tu fais au travail. Et le chef veut aussi bien savoir ce que tu as fait, ce que tu fais. Si tu commences à travailler, tu dois rendre compte. Mais pourquoi est-ce que nous ne voulons pas chérir et conserver ce que nous avons ramassé, assemblé, récolté de ce Christ merveilleux en tant que notre richesse? Si tu chéris vraiment ce que tu as expérimenté de Christ, alors tu ne peux pas non plus l'oublier. Tu ne vas pas l'oublier. Celui qui l'a, à celui qui a, il donnera encore plus, dit le Seigneur. Et celui qui n'a pas, on lui ôtera encore ce qu'il a. Si tu ne fais pas attention, tu ne chéris pas cela, et tu fais une expérience, mais la semaine suivante, tu as déjà oublié. Même ce que tu as lu le matin, le soir, tu l'as déjà oublié. Ce que tu as lu le matin. Ah, faut que je cherche dans ma mémoire. Tu ne t'en souviens plus. C'est justement ce danger que plus rien ne reste. Comme Jacques le dit, tu lis la parole, comme tu te regardes dans un miroir, et ensuite tu pars, et tu oublies aussitôt ce que tu as vu. C'est complètement différent d'une caméra. Tu fais un clic et c'est enregistré. Même tu le conserves dans ton ordinateur, tu fais des sauvegardes, tu accumules les vidéos. Et ensuite, tu montres aux autres ce que tu as fait, tes souvenirs, surtout si tu as fait des jolies vacances quelque part, tu rentres à la maison, ah, qu'est-ce que tu as là? Oh, rien. Pourquoi tu as pris alors ton appareil photo? Ben, pour que tu n'oublies pas. Tu n'oublies pas ce que tu as vu, ce que tu as vécu dans le monde, ça tu le conserves. Mais ce que tu as appris de Christ, ce que tu as expérimenté de lui, ce que tu as saisi de Christ, tu ne l'as pas conservé. Dis-moi, est-ce que tu veux encore rire? Ah, ceux-là, ah, ils écrivent leurs expériences de Christ. Celui qui se moque, enfin, rira bien qui rira le dernier, je pense, c'est une expression. Et la parole, toute la parole, nous avertit de cela. Ce monde va passer. Et le fait qu'il passe, ce n'est pas si simple que ce que nous pensons. Mais il va passer d'une manière terrible. Effrayante même. C'est pas du « il passe pas », le monde ne passe pas d'une manière agréable. Mais il va être jugé par la colère de Dieu. Parce que ce monde meurt par cette corruption, par ce poison, par le péché. Comment est-ce qu'on dit que tout le monde court en fait à sa perte? C'est plein de pollution. C'est même plus à cause des gaz, la pollution, mais à cause du péché. Il est contaminé, pollué. Il est plein de méchanceté, de péché. Et à la fin, l'alliance éternelle de Dieu, même carrément, on modifie l'humanité. Il y a tellement de sang innocent versé. Nous n'avons pas d'oreilles pour entendre. Mais la terre crie déjà. C'est pour ça que les volcans explosent. Parce que là, la terre ne peut plus tenir, il faut qu'elle explose. Est-ce que cela ne montre pas que on le voit hein, d'ailleurs, que la terre, qu'il y a des tremblements de terre, des volcans qui explosent, et que la terre s'ouvre d'un coup et puis qu'elle engloutit des maisons entières. Partout ça arrive depuis longtemps, c'est jamais arrivé pendant longtemps, puis d'un coup aujourd'hui, pouf, il y a des endroits où la terre s'ouvre. Des crevasses, quoi, en fait. Est-ce que ça n'arrive pas ici? Chez nous, oui, partout. Autrefois, même dans les fils de Corée, c'était déjà arrivé. Ouais, c'est... La terre a beaucoup d'appétit et puis elle veut engloutir tout ce qui est méchant, tout ce qui est péché. Ah, Mais nous ne comprenons pas cela. Nous traitons cela d'une manière de connaissance, de scientifique. Mais n'oublie pas que la terre est entre les mains de Dieu, que c'est lui qui contrôle toutes choses. Le Seigneur va prendre une aiguille. Je sais pas trop. Le Seigneur a déjà préparé toutes choses. Il suffit simplement qu'on s'approche un peu plus du soleil et puis on ne supporte plus la chaleur. Le Dieu va faire tellement de choses, il y aura beaucoup de tremblements de terre, tellement point que les populations vont devoir fuir. Mais la terre va bouger pas par la foi, mais par la colère de Dieu. Aujourd'hui, par la foi, tu peux déplacer des montagnes, mais là, c'est d'autres sortes de montagnes maintenant. Tout cela va arriver. Il y a tellement de choses qui vont se passer. Même l'eau qu'on boit deviendra du sang. Un tiers de la nature va être détruite. Que ce soit à la mer ou sur la terre, partout. Il y a tellement de choses que nous ne pouvons même pas nous représenter aujourd'hui, qui vont arriver aujourd'hui, et de cette manière, le monde va passer de cette manière-là. Si nous ne voyons pas cela, et ne prenons pas cela au sérieux aujourd'hui dans notre esprit, que nous ne le prenons pas dans nos cœurs, dans notre intelligence, alors nous n'avons aucune crainte, aucune peur. Alors nous continuons à aimer ce monde. Pourquoi est-ce que nous devons reconnaître cela simplement pour que nous ayons peur? Du fait que le monde passe. Jean l'a dit, notre Seigneur que nous aimons n'est pas de ce monde. Déjà, quand il a vécu sur cette terre, il disait, mon royaume n'est pas de cette terre, n'est pas de ce monde. Le deuxième homme, a dit Paul, le dernier Adam, c'est un homme qui vient du ciel. Le deuxième homme. Le premier homme est créé de la terre. Et il meurt. Le deuxième homme est céleste, il vient du ciel. Donc le premier homme est tiré de la terre, il est terrestre, le second homme est du ciel. Auquel appartiens-tu, du premier ou du deuxième? C'est le verset dans 1 Corinthiens 15, verset 47. Bien sûr, tu vas me répondre du deuxième. Personne ne va me répondre, je correspond au deuxième, au premier. Mais dans ta vie quotidienne, est-ce que tu vis comme le deuxième homme, le second homme, ou comme le premier homme? Selon l'enseignement, nous sommes comme le second homme. Mais dans la pratique, nous vivons comme le premier homme. Est-ce que tu penses que ça va plaire à Dieu, au Seigneur? Dans beaucoup de choses, nous parlons de l'unité et nous nous divisons. Nous parlons de l'amour et nous haïssons les frères et nous les rejetons. Nous parlons de l'édification et nous détruisons. Nous parlons de l'esprit et nous marchons selon la chair. Nous parlons de la vérité et nous disons des mensonges. J'espère que par la grâce et la miséricorde du Seigneur, j'espère que pour nous, ça se passe autrement. Enseigner des doctrines. Enseigner, c'est très simple. Nous sommes tous exercés depuis que tu es au jardin d'enfants, même avant, avec tes parents à la maison. Tu utilises ton intelligence pour saisir des choses. Tu comprends si vite les choses. Mais comment nous vivons, ça ressemble un petit peu à autre chose. Même quand nous sommes nés de nouveau dans notre esprit, si nous n'exerçons pas notre esprit, il n'y a rien. Tu ne peux pas simplement continuer à être en esprit et marcher en esprit et vivre par l'esprit. La piété doit être exercée. C'est un exercice. Exercez-vous à la piété. Pour le contraire, tu n'as pas besoin de t'exercer. Tu n'es pas du tout de Dieu. Si tu veux apprendre le chinois, tu as besoin de beaucoup d'exercice. Même quand tu l'as appris, si on t'entend parler le chinois, nous savons quand même que tu es allemand, à cause de l'accent. C'est un chinois allemand. Comme moi je parle l'allemand, on entend que je suis pas allemand, je me trompe entre les derdidas, l'accusatif, le datif et tout ça. Je fais des erreurs. Parce que je manque d'exercice. Et non seulement ça, mais je ne suis pas née allemand. Ce n'est pas ma langue maternelle. On remarque toujours que je ne suis pas allemand. Est-ce qu'on remarque aujourd'hui que nous vivons en esprit? Bien que nous avons l'esprit. Et on le voit aux fruits. Même, tu dis, ah, je suis en esprit, alléluia, nous sommes en esprit, ah, je ne crois même plus. Autrefois, j'ai juste cru. Louez le Seigneur, nous sommes en esprit. Nous avons l'esprit, nous sommes en esprit, alléluia. Oui. Entre-temps, je suis devenue plus âgée. J'ai remarqué, je peux témoigner aussi, ce n'est pas si simple. Marcher selon l'esprit. Ou comment est-ce que je sais si je marche en esprit? Paul dit par le fruit. Si tu marches par la chair, ou en esprit, tu verras aussi si tu marches dans la chair, et pas en esprit, tu verras aussi les œuvres de la chair. Et cela correspond exactement à ce que le Seigneur a dit. Tu peux reconnaître, pas à l'arbre, si c'est un bon arbre ou pas, mais à son fruit, si il est sucré ou pas. Seulement au fruit, tu reconnais le bon arbre. Si les gens disent, nous sommes en esprit, ok. Je vais voir les fruits de l'esprit. Je vais aussi les voir. C'est à ça que l'on reconnaît. Ça. Que le Seigneur nous encourage tous. Pas seulement nous en tenir à l'enseignement, mais à la pratique, à notre marche, à avoir du fruit. Je ne peux pas dire j'aime le Seigneur, mais mes lèvres, ce que nous disons, ce qui sort de notre bouche est vraiment bon marché. C'est pour ça que Jacques a dit, c'est que de la même source sort autant de l'eau, des bonnes choses que des mauvaises choses. Je dis Seigneur, louez le Seigneur, et puis l'heure suivante, je m'énerve. Est-ce que ça va? C'est dans Jacques 3, il dit, parrain, nous bénissons le Seigneur notre Père, parrain, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Nous avons besoin d'être traités, d'être transformés en réalité. Et c'est pour ça que nous devons collaborer avec le Seigneur. C'est Jacques 3:11, la source fait jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. C'est pour ça que nous devons dire Yahvé, Rofeka, venir à lui, Seigneur, guéris-moi. J'ai souvent dit au Seigneur, Seigneur, je viens à toi, pas seulement comme mon Seigneur, mais aussi comme mon médecin. Et toi, en tant que médecin, tu n'as pas le choix, tu dois me guérir. C'est ton devoir. Le médecin ne peut pas te renvoyer à la maison. Ah non, je ne t'aime pas, j'aime pas ta tête, je te renvoie à la maison. Ça, je peux l'attaquer, lui, en justice, s'il fait ça. Le Seigneur a dit... Je suis le Seigneur, votre médecin. Je vais être guéri, soigné. Je ne le laisse pas, je n'abandonne pas, même s'il me ramène à la maison. Je dis, ah ben alors tu viens avec moi à la maison, s'il me renvoie à la maison. Et alors là, tu me guéris, tu me soignes à la maison. Si tu as une maladie dans ton corps, tu ne vas pas abandonner jusqu'à ce que ta maladie soit guérie. Mais si nous avons une maladie intérieure dans notre cœur, dans nos pensées ne sont pas en ordre, nous pensons à tellement de choses impossibles. Et c'est pour ça qu'en fait tu comprends mal les autres, tu critiques et tu as tellement de pensées bizarres sur les saints. Et nous comprenons mal tout le temps, tu as mal compris ta femme, ton mari, tu l'as mal compris, les saints. Tu vois autrement, tu critiques. Ça ne te convient pas, est-ce que ça ce n'est pas une maladie ou tu penses que pour toi non, tu es si merveilleux. Est-ce que ça, ce n'est pas une maladie aussi? Qui peut te guérir de cela? Qui doit te guérir? Mais tu ne t'en préoccupes pas, tu ne t'occupes pas de cela. Tu ne cries pas au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas avoir de telles pensées. Guéris-moi, je viens à toi pour la guérison. Nous devons nous exercer à collaborer avec le Seigneur. Et c'est pour ça que l'Ésaïe nous montre clairement que nous sommes malades. Toute la tête est malade. Aussi le cœur. Et la maladie n'est pas seulement dans la tête, mais c'est jusqu'à la plante des pieds. Pas seulement jusqu'aux pieds, mais même sous les pieds, la plante des pieds. La plante des pieds même, pas juste les orteils. Il dit la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Criez au Seigneur. Aimer le monde, c'est aussi une maladie. Pourquoi est-ce que nous n'aimons pas le Seigneur? Bien que nous disons, Seigneur, nous t'aimons. Est-ce que le Seigneur ne t'a pas déjà averti ces hommes, même loue avec les lèvres, quand nous chantons, louez le Seigneur, louez le Seigneur. Après les chants, nous rentrons à la maison, nous avons déjà oublié ce que nous avons chanté. mais leur cœur est éloigné de moi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui nous ne sommes pas ainsi? Autrefois c'était ainsi au temps d'Ésaïe. Le prophète a déjà dit, et il a dit au Seigneur par les prophètes, et c'est le Seigneur qui l'a dit au travers des prophètes. Et quand le Seigneur est venu sur la terre, il a repris la parole d'Ésaïe, c'est plus de 700 ans avant. Il a repris ce que le Seigneur avait déjà dit à travers d'Ésaïe autrefois. Et penses-tu que 2000 ans après, c'est ça de différent, ça a changé? Nous avons le culte le dimanche pour une heure ou deux heures. Et ensuite, toute la semaine, notre cœur est très éloigné de lui. Occupé avec toutes les choses du monde. J'espère que non. Ouais, j'espère que non. C'est un bon espoir, une bonne espérance. C'est bien d'espérer cela. Ésaïe a dit, nous sommes pleins d'espérance. Nous attendons l'espoir. L'espoir de son bras qui nous aide. Nous espérons sur ce médecin merveilleux qui nous guérit. Nous espérons que l'esprit nous transforme. Et combien souvent est-ce que tu t'aimes toi-même tester pour voir combien tu as été transformé de gloire en gloire? Je ne veux pas critiquer les autres, je veux me critiquer moi-même. Je veux que ma femme remarque que j'ai été transformée. Je veux volontiers voir même que ma fille remarque que le père est autrefois qu'il y a 40 ans, est autrement qu'il y a 40 ans, j'espère. Si les autres ne remarquent aucune transformation, c'est qu'il n'y a pas de vérité là-dedans. Paul a dit à Timothée, laisse que les autres puissent voir tes progrès. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Nous remarquons que nous retournons en arrière. Nous revenons en arrière. Reculons. Partout nous remarquons cela. Non seulement que tu restes le même, mais en plus c'est tout à l'envers. Le bien, le juste devient le mal. C'est un retour, c'est aller revenir en arrière. C'est aussi une sorte de transformation, mais c'est pas de gloire en gloire. Je ne sais pas de quoi en quoi. Ah. Excusez-moi, le temps passe, mais c'est bien plus important que juste de lire la parole. La communion que nous avons maintenant est plus importante. Nous parlons du cœur. Mais ce sont vraiment des conditions bonnes et importantes pour entrer dans cette parole. Parce que tout ce monde, tout ce système... Bien que nous ne soyons pas autant pris, que nous ne soyons pas grandis, nous ne soyons pas enracinés autant que les gens dans ce monde, ne pense pas que l'influence n'agit pas. Nous allons être influencés de ce que nous entendons, parce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous vivons, les gens avec qui nous allons, nous marchons. Regarde Lot qui habitaient à Sodome et Gomorre autrefois. Tu ne penses pas qu'ils ont été influencés? Regarde sa femme. Souviens-toi de sa femme, la femme de Lot. Elle a dit, pense à la femme de Lot. N'oublie pas. Et ensuite, pense aux deux filles de Lot. Souviens-toi d'elles. D'où est-ce qu'elles ont eu ces idées bizarres? Thank you. Penses-tu que cela ne vient pas d'une certaine influence de ce que les gens à Sodome et Gomorre pratiquaient? Et aussi pour ça que Moab et Ammon sont là, bien qu'ils étaient de la même famille, c'était pas légitime. Nous devons tous apprendre cette influence du monde. On ne peut pas dire j'en suis libre. On ne peut pas dire une telle chose. Mais si tu vois les choses comme ça, à la fin tu te dis c'est ainsi, c'est comme ça. Et ça veut dire qu'à la fin tu es devenu insensible. Même si tu ne pratiques pas la même chose, tu es devenu insensible à ce monde. Si tu dis c'est ça, c'est comme ça. Mais ça ne doit pas être ainsi. Je m'appelle So, c'est pour ça que je le sais. Ça ne doit pas être ainsi. C'est un petit jeu de mots. Le Seigneur, que le Seigneur nous soit miséricordieux. Notre esprit doit être aiguisé, il doit être sensible, sensibilisé à ces choses, il doit être fortifié, il doit opposer résistance à ces choses, il doit réagir. Nous devons nous tenir du côté du Seigneur. Nous sommes dans le monde, mais comme le Seigneur a dit, nous ne sommes pas de ce monde. Comme notre Seigneur. Quand il était sur cette terre, il a vécu comme un homme sur cette terre. Mais le monde, la terre, le péché ne pouvaient pas pénétrer dans cet homme. Ils ont tous essayé de le tenter, ils ont essayé, mais il n'a pas péché. Il n'a commis aucun péché et le péché n'est pas entré en lui. Dans cette humanité merveilleuse. Et ça, c'est ça que ça signifie dans le monde, mais pas de ce monde. Mais si je suis dans le monde, et le monde, je suis imbibé du monde, même si c'est 100%, mais même si c'est 50%, et ensuite ça augmente. Même si c'est que 20%, c'est pas bon. Même un tout petit peu, c'est déjà pas bon. Mais si ça continue à pénétrer, tu continues à t'imbiber, c'est pas bon. C'est quand l'eau rentre dans le bateau, alors le bateau va couler. Le bateau va être baptisé. À la fin, tu ne peux plus séparer le bateau de l'eau de la mer. Louis le Seigneur. Est-ce que cela suffit? C'est pour ça qu'au chapitre dans Ésaïe 24 à 27, de voir du jour à venir de la colère. Verset 24, on verra, chapitre 24. Si l'Éternel dévaste le pays, mais en fait, le pays c'est pas faux, mais en fait ça concerne toute la terre si on prend le texte original. Quand on pense au pays, on pense pas forcément à toute la terre. Quand on lit le pays, si nous lisons ce chapitre, là, 24, nous devons voir qu'ici le pays, ça signifie toute la terre qui est habitée. La terre, ouais. C'est un globe, c'est pas plat, la terre n'est pas plate, hein, c'est... Vous pouvez en fait lire vous-même. On n'a pas besoin d'explication.
Bonjour, Lisa.
Le Seigneur va dévaster le pays, le rendre désert. Il va bouleverser la face et disperser les habitants. C'est donc Ésaïe 24, verset 1. Il en est sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Comme exactement que le septième sceau est ouvert, du roi jusqu'à l'esclave, du l'homme le plus élevé jusqu'au plus bas, il n'y a aucune différence. Quand la dévastation vient, il n'y a plus de différence. C'est peu importe. Peu importe si tu es riche, si tu es pauvre. En ce temps-là, quand ce temps vient, ce jour vient, tu as beau rouler une Mercedes ou aller à pied ou avoir juste un vélo, peu importe. À ce moment-là, ça ne fait plus la différence. Aujourd'hui, nous faisons une différence. Nous marquons la différence aujourd'hui entre un Japonais et un Allemand. Mais à ce moment-là, quand ce jour-là vient, tout est égal. Nous sommes tous égaux. Il n'y a plus de différence. La terre, le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Le Seigneur a donné cette parole, a parlé cette parole. Et cela signifie que cela va certainement arriver. C'est sûr, ce que le Seigneur dit, ce que Dieu dit, cela ne passe pas. Ça, nous devons le conserver dans notre cœur. Le Seigneur l'a dit. S'il l'a dit, il le fait. Ce n'est pas les paroles d'un homme. Le pays était profané par ses habitants. Non, c'est le verset 4. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants. Toute cette terre, ce pays, ils l'ont profané. Ils l'ont profané car ils transgressaient les lois. Regarde, quel pays ne transgresse pas les lois? La loi de Dieu. Pas seulement les lois établies par un État, mais la loi de Dieu. Il y a tellement de mensonges, tellement de meurtres, tellement d'idolâtrie contre Dieu. Aujourd'hui, personne ne prête attention aux autres. Il y a rébellion contre les pères, rébellion, ou les parents, rébellion. Même aux États-Unis, ce que le président dit, personne n'écoute. Ils essayent maintenant de même tuer le président. Nous vivons dans un temps où personne ne prête attention à la loi, transgresse la loi. Il viole les ordonnances. Il rompt l'alliance éternelle. Dieu a créé l'homme et la femme. Maintenant, ils veulent rompre cette alliance. Ils veulent détruire l'homme et la femme. Certaines personnes ont même dit, pourquoi est-ce que Dieu doit être homme? Il y a certaines traductions qui veulent les changer, les modifier. Comment est-ce qu'ils veulent les changer? Aujourd'hui, on dit un homme peut devenir une femme. Et la femme dit, ah, je ne veux pas être une femme, je veux être un homme. C'est vraiment une telle confusion aujourd'hui. Et la terre crie. Parce que l'homme, le premier Adam, il est de la terre, il sort de la terre. Et la terre se sent vraiment honteuse. Mais qu'est-ce que font ces personnes? Ils rompaient l'alliance éternelle. Le bien devient mal, le mal devient va être supporté. Le mal devient bien. Les hommes veulent tout mettre à l'envers. La tête vient en bas et puis les pieds en haut. Les femmes dominent et les hommes plus bas. Tout est à l'envers. Tout ce que Dieu a ordonné, tout ça est à l'envers. Aujourd'hui, c'est vraiment comme ça. C'est la réalité. Même maintenant, les enfants veulent régner. Exactement comme Esaïe l'a dit. Non, mais ne sortez pas les frères, les enfants, pas besoin de les sortir. Mais c'est juste un exemple. Les enfants veulent aussi dominer. Tout est à l'envers. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Ses habitants portent la peine de leurs crimes. Et un jour, on doit payer. À un certain moment, ils vont devoir payer. Nous ne pensons pas à cela, mais la parole le dit. Et nous devons prêter attention à la parole. Je ne veux pas juste parler de l'enseignement et pas avoir de sentiments intérieurs. C'est pas. Sinon, il suffit que vous lisiez ces versets à la maison, on n'a pas besoin d'être là. Demande à mes enfants, je leur ai dit, pourquoi venir? Alors ma fille a dit, mais pourquoi est-ce que tu y vas? Alors, si tu y vas, il dit, oh, mais il a le live stream, pas besoin d'aller. Alors, la réponse suivante, c'est, oh, ben, tu peux aussi parler par Skype, alors. Que celui qui a des oreilles entende. Ça ne joue aucun rôle, que tu sois là ou pas. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Le verset 6 du chapitre 24 toujours. Il n'en reste qu'un petit nombre. C'est ça qui va arriver. Je crois que j'ai pas besoin de lire plus loin. Vous pouvez vous-même le lire. Mais dans le contexte, avec la communion qu'on a, si tu lis ces versets, alors tu auras la lumière, tu verras, nous allons remarquer, Seigneur, je ne veux pas aimer le monde. Que nous aimons le monde, ça ne veut pas dire que nous ne menons pas une vie normale. Mais cela signifie simplement, comme c'est écrit, n'aimez point le monde. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Nous utilisons seulement la nourriture qui nous est nécessaire. Et c'est pour ça qu'il y a en moi ce désir qui grandit. Le cœur est tellement sensible. Celui qui a, il veut avoir toujours plus. Ce cœur a une maladie qui s'appelle de vouloir toujours plus. Assez, c'est ne jamais assez. Quand ton appétit grandit, plus tu manges, plus tu as de l'appétit. Enfin, tu manges, et tu deviens énorme. Et moins tu manges, moins tu as d'appétit. Alors manger normalement. Pas trop peu, ni trop peu, mais simplement normalement. Aujourd'hui, nous ne sommes plus normales. Enfin, tu dois être mince. À la fin, il ne reste que les os. Tu n'es qu'un petit bâton. Les autres, mange. Alors, tu deviens un ballon. Notre cœur est ainsi en relation avec ce monde. Si nous ne prêtons pas attention et que nous ne mangeons pas de manière, nous ne vivons pas de manière raisonnable, normale, à la fin, ce qu'il y a, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Pas l'idolâtrie dans le sens que nous adorons des démons, mais que Dieu est remplacé dans ton cœur. Au lieu d'avoir l'amour du Père, tu aimes autre chose. Et ça, ce n'est pas bon. Ne sous-estime pas la cupidité, l'avarice. Comme Paul l'a dit, comme l'a déjà mentionné, la piété. La piété est utile à tout. Mais tu ne peux pas assembler la piété et l'avarice. Cette combination de la piété et l'endurance, ça va très bien, ça se complète. La parole de Dieu est pleine de sagesse. Et c'est pour cela que pour saisir pleinement Christ, nous avons besoin de la parole. Si nous n'avons pas la parole, alors nous avons certaines expériences de Christ. Oh oui. Oh, j'ai eu un souci avec la voiture. Quelqu'un est venu et m'a aidé. Ça, c'est une expérience de Christ. Mais dans ton cœur, tu as juste ce souci de voiture. Juste, tu as eu un pneu crevé. Il y a juste l'air qui est sorti. Tout ce que tu as dans ton cœur. Nous devons expérimenter Christ selon sa parole. La piété. Est-ce que tu es pieux? Est-ce que tu vis Christ jour après jour? Ou est-ce que j'ai besoin d'une certaine expérience extraordinaire? Ou est-ce que je vis dans cette conscience, plus moi, mais Christ en moi? Dans mes pensées, dans mon cœur? Ce que je souhaite? Ce que je désire? Comment je parle à la maison? Comment je me comporte? Etc. Notre marche, afin que nous puissions porter ce fruit, une vie qui plaît à Dieu, une vie qui est pleinement absolue comme Christ en tant que notre holocauste. Et toutes ces choses, pour toutes ces choses, nous avons besoin de la parole. Verset 7, le mou est triste, la vigne est flétrie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. Seigneur Jésus, la joie des tambourins a cessé, il n'y a plus de joie. Cette joie agréable du Seigneur n'existe plus. La joie normale n'est plus là. Tu vois seulement cette joie brillante, okay, comme on le voit sur un terrain de foot. Stuttgart contre Hambourg. Alors, tout le monde crie dans le stade. Jésus. La ville déserte est en ruine, toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus, etc. On ne va pas lire plus loin. C'est mieux que nous lisions plus tard ces versets nous-mêmes, qu'on puisse lire après depuis le verset 2 du chapitre 25-26. On verra qu'à la fin, Israël est sauvé. Mais seulement à la fin, après que tout ait été jugé. Et peut-être que à la prochaine réunion, nous lisons alors dans Zacharie pour mieux saisir cela. En fait, si les gens disent « Ah, ça c'est l'Ancien Testament, ça ne nous concerne plus », c'est une grande erreur. Ça va arriver, ça va se passer. Ça va arriver en notre temps, actuellement. La parole de Dieu n'est jamais ancienne, passée, vieille. Elle est valable pour tous les temps. Toutes les paroles, la parole. C'est Paul l'a dit dans 2 Timothée 3, 16. Toute parole est inspirée de Dieu. Elle est toujours actuelle, elle ne passe pas. Elle est utile, elle est inspirée de Dieu, elle est utile pour nous même aujourd'hui. Au temps de Paul, bien, quand il a écrit, c'était valable, mais encore plus pour nous aujourd'hui. C'est cette parole aujourd'hui sur laquelle nous avons la communion, que nous lisons. Regardez, vous êtes ici. Est-ce que la première partie de Ésaïe ne vous a pas aidé? Ou bien pas du tout? Pourquoi est-ce que vous revenez si elle ne vous a pas aidé, cette parole? Alors, vous n'avez pas besoin de revenir, vraiment. Je me réjouis. S'il n'y a plus de conférences, ça veut dire que je peux rester à la maison. Vraiment. Mais ce n'est pas une bonne joie. Ce n'est pas la joie dans le Seigneur. Ce n'est pas la joie du salut. C'est la joie de la paresse. Louez le Seigneur. Le temps est passé, faisons une pause.